comme les autres. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez Martino, Cube Radio.
Je sais pas vous, mais moi, j'ai une relation amour-haine avec le projet du REM. Je me dis, bon, ça va être le fun quand même pour le transport collectif. Ça va être bien, c'est très rapide. Les trains, on les a vus, ont l'air très beaux. D'un autre côté, je me dis, ça va être tellement laid. Ça va être recouvert de graffitis. Puis surtout quand c'est surélevé, là, avec ces grosses affaires de béton-là. Et en plus, on donne des contrats en Inde. On est allé chercher les trains en Inde, le béton pour faire les piliers aux États-Unis. Les panneaux de verre pour les stations aux Émirats Arabes Unis. C'est un peu n'importe quoi. Donc, on va en parler avec M. Joël Arsenault. Il est député péquiste des Îles-la-Madeleine, porte-parole du PQ en matière des transports. Et je trouve que c'est un des députés qui s'est le plus démarqué cette année. Hein, on était rendu à la fin de session. On donne des points là aux députés. Les chroniqueurs politiques font ça maintenant, leur petit bulletin. Alors, je pense qu'il y aurait un petit ange dans sa marge, M. Joël Arsenault. Bonjour, M. Arsenault.
Bonjour, M. Martineau. Merci beaucoup pour l'étoile au bulletin.
De rien. Vous, votre relation avec le REM, est-ce que c'est une relation de haine-amour comme moi?
Ben oui, je pense que vous l'illustrez bien. On veut tous un transport structurant, un transport collectif. Et quand il est question du REM de l'Est, on veut absolument le régler, cette espèce d'erreur historique d'abandon de la région de l'Est de Montréal. La question est de savoir comment, par quels moyens on peut à la fois desservir les gens, mais s'assurer que ça corresponde à leurs attentes, d'une part en termes de services, mais aussi que ça ne déchire pas des quartiers et qu'on ne nuise pas à leur qualité de vie, à leur environnement.
Eh bien, M. Arsenault, la question qu'on se pose, est-ce qu'on aurait accepté de faire passer comme ça là, un train surélevé à Westmount?
Je pense que poser la question, c'est de répondre.
Hein. Oui.
On sait qu'il y a la ligne qui va vers le nord, qui, elle, est entièrement souterraine, mais on peut se demander pourquoi on ne fait pas la même chose dans les tronçons où c'est particulièrement problématique, qui traversent Hochelaga-Maisonneuve ou encore le coin où est la station Honoré-Beaugrand. On va effectivement le séparer des quartiers puis rendre la vie impossible aux gens qui habitent en proximité. D'ailleurs, c'est ce dont j'ai pu me rendre compte hier en parcourant pendant tout l'après-midi avec des gens du coin là, le territoire. Ouais.
Et ouais. Ça va être, vous le savez, ça va prendre 15 minutes, ça va être recouvert de graffitis de haut en bas, ça, là, les piliers. Là.
Absolument. Mais la question de la beauté, j'entendais le premier ministre dire ça va être beau. je pense que c'est pas là, en faisant pousser des vignes sur des blocs de béton qu'on va véritablement là, intégrer à l'environnement urbain et à l'environnement social aussi. Une infrastructure comme celle-là qui va passer, qui va aller traverser un parc, le parc Morgan, là, où j'étais hier, puis il y avait des enfants, des familles qui s'amusaient, puis c'était comme inconcevable de penser que l'îlot de verdure qui est dans ce quartier-là, puis qui est habité, là, qui est utilisé, qui est un petit peu là, leur oasis de liberté, de paix et de nature, ben, qu'on aille transpercer ça de structures de béton surélevées avec un train qui passe aux 4 minutes, c'est inconcevable pour la population locale, puis je pense que c'est inacceptable aussi sur le plan social.
Il paraît que ça va être bruyant en plus, c'est ce qu'on semble dire.
Ouais, ben ça évidemment, ça reste à mesurer. Ce qu'on sait, c'est que des citoyens de l'endroit ont utilisé un sonomètre strictement là, pour mesurer le bruit actuel. Là, une journée de travail dans le port de Montréal, le long de la rue Notre-Dame, on dépasse déjà les normes acceptables par la ville. Puis dans les consultations, ils disent le bruit actuel, là, il augmentera pas, mais il est déjà supérieur aux normes qui seraient tolérables. Puis quand on fait une structure surélevée, ben je pense que effectivement le bruit va porter là, au-delà des premières résidences. Puis ça c'est, on a peine à l'imaginer encore. Puis on a peine à imaginer qu'on soit dans ce modèle-là là, où, finalement, on construit, on ignore un petit peu l'opinion publique. Puis ça me fait penser un petit peu à la démolition des quartiers, justement, là, dans certains coins de Montréal, centre-sud. Là. Puis, il me semble qu'on n'était plus là en 2021.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Là,
c'est des PQ.
Ça nous rappelle effectivement une époque où on disait, là, on va peut-être démolir un paquet de quartiers, puis on va construire une tour de Radio-Canada ou des choses comme ça. Et vous demandez à ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec comparaît en commission parlementaire.
Ben pourquoi? Parce que en fait, on sent que le gouvernement a donné les clés de la ville à la CDPQ. Il y a des finalement, ils ont carte blanche. Ils semblent avoir plus de pouvoir que les élus de la ville, qui eux sont particulièrement tranquilles actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû signer des ententes de confidentialité. Donc il y a une opacité complète sur ce projet-là. C'est pas normal qu'on rende pas de compte à la population. Le gouvernement s'en lave les mains en disant ben la CDPQ, on leur fait confiance. Ils vont nous faire un projet clé en main de 10 milliards de dollars, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Il faut pouvoir, et plus on avance, vous avez fait référence au fait qu'on donne des contrats en Inde pour les wagons,
ben oui.
On donne des contrats à Abu Dhabi pour les fenêtres, pour les vitres. Ce projet-là va-t-il véritablement bénéficier aux Québécois, aux Montréalais qui sont touchés, et à l'économie du Québec? On peut se permettre d'en douter. C'est pour ça qu'il faut entendre la CDPQ là, mettre carte sur table et puis nous donner leur juste.
Et c'est quand même assez particulier qu'on nous dise là qu'il faut acheter localement là, nos fruits et légumes, par exemple, nos vêtements, le panier bleu, c'est très important. Mais d'un autre côté, quand c'est le temps d'accorder des contrats faramineux de plusieurs millions de dollars, là, on ne se gêne pas et on va à l'étranger.
Ben exactement. On veut convaincre les Québécois d'acheter local dans des fruits et légumes là, qui valent quelques dollars. Et puis quand le gouvernement fait des achats massifs où le gouvernement viole la CDPQ infra, de toute façon, là, c'est les Québécois qui vont payer pour ces infrastructures-là, on sait bien. Mais là, à ce moment-là, on va au plus bas soumissionnaire, et puis s'il est à l'étranger, on n'a aucune espèce de nationalisme économique dans cette optique-là. Moi, ça me dépasse, ça me désole, et je pense qu'il faut qu'on en fasse un véritable débat. On sait déjà que le modèle qui a été proposé pour Montréal et accepté par le Parti libéral, puis adopté par la CAQ, il a été présenté en Nouvelle-Zélande. La CDPQ a fait son pitch, si on veut. Et puis, après quelques mois, ce projet-là a été rejeté, justement, parce qu'il était fait par des intérêts extérieurs au pays, notamment, puis qu'on savait pas trop combien ça allait nous coûter en bout de ligne. Je pense que cette leçon-là vaut pour les Québécois également.
Puis, en même temps, il y a l'éthique aussi. Est-ce qu'un pays comme les Émirats arabes unis ou l'Inde, est-ce qu'il respecte des protocoles, puis le respect des travailleurs? T'sais, c'est certain qu'eux autres arrivent avec la plus basse soumission. Ils payent les gens des peanuts.
Exactement. On peut pas, d'ailleurs, faire abstraction de ces questions-là. C'est comme les questions environnementales. Oui. Aujourd'hui, là, je pense que simplement dire que ce projet-là, il va coûter le moins cher possible, va être fait avec à vitesse grand V.
Dans quelles conditions?
Conscience, effectivement, la cicatrice que ça va infliger à Montréal, l'impact sur les citoyens, l'impact environnemental, puis l'impact économique, et même en termes, effectivement, de valeurs morales qu'on veut véhiculer, justement, dans la société québécoise. Moi, je pense qu'on peut plus fermer les yeux sur toutes ces questions-là. Puis les seuls, actuellement, qui peuvent nous donner leur juste, ben c'est les représentants de la CDPQ Infra qui mènent actuellement des consultations où on voit que toutes les questions ne sont pas accueillies de la même façon. Les comptes rendus sont faits, puis de l'aveu des citoyens, là. Les comptes rendus sont un petit peu, obscurs sur les véritables enjeux qui ont été amenés dans les ateliers. Puis on fonctionne, on a l'impression qu'on fonctionne un peu sur la défensive, dans la justification du projet, plutôt que de l'écoute réelle de ce que les citoyens ont à dire et à poser comme question.
Et en terminant, M. Arsenault, en tant que Montréalais, je suis jaloux des gens de Québec. Pourquoi? Ben, à Québec, il y a eu un véritable débat sur le troisième lien qui a duré longtemps. Les gens ont pu se prononcer un peu partout. Il y a eu des débats. On est pour, on est contre. Ici, on a l'impression que le fameux REM, on nous l'a enfoncé dans la gorge. On a sorti ça d'un chapeau du jour au lendemain, puis on a été pognés avec.
Je ne sais pas si vous êtes cynique ou si véritablement vous croyez que le débat à Québec est terminé. À mon point de vue, il ne fait que commencer sur le véritable projet qu'on nous a présenté il y a quelques
temps. Mais au moins, il y a une conversation, il y a un débat. Là. Le REM, c'est qu'on s'est réveillé un matin, puis boum, le REM était là, on dirait.
Oui. Oui, ben tout à fait. Mais le REM est là, comme le tunnel de Québec est là, c'est-à-dire que on n'a pas les études, on n'a pas non plus, je dirais les experts. On est comme citoyens, là, on veut bien croire les gens qui nous proposent des projets avec des fortes images, puis avec une campagne de publicité marketing extraordinaire. Mais je pense que ça prend plus que ça, et pour le tunnel de Québec et pour le REM. Puis moi, plutôt qu'y voir une différence, si vous me le permettez, je vois que dans les deux cas, ce sont des projets de 10 milliards de dollars dont on ne sait pas très bien comment on va s'en tirer sur le plan économique, puis à savoir si les résultats seront à la hauteur des ambitions.
Tout à fait. Il n'y a absolument pas d'étude qui vient appuyer ces projets-là. Je vous souhaite un très bel été. J'espère que les touristes qui vont vous prendre d'assaut aux îles de la Madeleine vont bien se comporter, respecter les gens qui vivent là et respecter l'environnement aussi. Je l'espère.
Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'on va bien s'entendre avec nos visiteurs.
Merci beaucoup, M. Joël Arsenault. Merci député péquiste.